Chemin de vie. Bienvenue à tous. Nous espérons que vous avez passé un bon week-end et c'est avec plaisir que nous vous présentons votre rubrique Chemin de vie. Pendant 30 minutes, nous parlons de la Bible, du lundi au vendredi, à cette même heure. Au micro, Heidi.
Ainsi que Jean, et comme à l'accoutumée, Daniel est à la technique.
La lecture d'aujourd'hui nous fait découvrir un des chefs religieux juifs de l'époque. Il pose une question très pertinente à Jésus. Que faut-il que je fasse pour être sauvé?
En effet, c'est pour lui une question capitale qui engage son éternité. Que va lui répondre Jésus?
Quand quelqu'un veut se lancer dans une grande aventure, comme par exemple la traversée de l'Atlantique sur une coquille de noix, il fait un gros tapage publicitaire pour attirer l'attention du public et récolter l'argent dont il a besoin. Une fois que le grand jour du départ est arrivé, toutes les grosses huiles du coin sont présentes avec fanfare, grand sourire et meilleurs vœux de réussite. Puis on attend le succès de la mission pour sabler le champagne. Quand Jésus a commencé son ministère, il a lui aussi choisi de se faire remarquer par deux actions qui ont suscité l'étonnement de ceux qui y ont assisté. Son premier acte extraordinaire, qui a eu lieu à Cana au cours d'un mariage, était plutôt privé. En changeant l'eau en vin, Jésus a introduit une ère nouvelle. Ce miracle signale que dorénavant, le vin des noces de l'agneau remplace l'eau des ablutions rituelles juives. Le second événement extraordinaire et public, celui-là, a eu lieu à Jérusalem, dans la cour du Temple, l'endroit le plus sacré du judaïsme. Là, le Seigneur a fait une intervention musclée, accompagnée de reproches sévères à l'égard des Juifs, ce qui a provoqué diverses réactions. En tout cas, les disciples qui viennent tout juste de se joindre à Jésus se rappelleront de ces événements inhabituels qu'ils ont vus. Quant aux commerçants ambulants, vendeurs de religion, ils se demandent de quel droit cet homme se permet d'agir ainsi. Le Seigneur leur répond alors, « Défaites ce sanctuaire et en trois jours, je le relèverai. » Mais ni les marchands, ni les chefs religieux n'essayent de comprendre ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Pourtant, dès le début de son ministère, le Seigneur annonce l'objectif de sa mission sur terre. Il doit mourir et ressusciter. Pour l'heure, la foi qu'expriment ses disciples est hésitante, et celle des foules impressionnées par ses miracles très superficielles. Nous arrivons au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, qui établit un contraste entre les girouettes qui suivent Jésus de loin à cause de ses miracles et un haut responsable religieux juif qui, lui, essaye vraiment de comprendre qui est cet homme. Je commence à lire. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Cet homme n'a pas encore la foi, mais il est sincère. À côté du fait que les pharisiens sont des saintes nitouches, ils ont quand même le mérite d'être attachés aux vérités fondamentales de l'Ancien Testament. Ils croient aux miracles, à la résurrection des morts, aux Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et ils attendent le Messie qui doit venir régner sur le trône de David. Bref, Nicodème incarne ce qu'il y a de mieux au sein du peuple juif. Il est membre du Grand Conseil, le corps politique qui dirige la nation dans les affaires religieuses, mais aussi civiles, sous l'autorité romaine. Nicodème fait partie du comité restreint, des 70 responsables qui gouvernent le peuple juif. C'est donc un personnage éminent, comme le serait un ministre doté d'un portefeuille, et bien sûr, il porte son costume de fonction, une robe avec ses phylactères, le châle de prière, qui est cette grande pièce d'étoffe avec laquelle les hommes du Moyen-Orient se couvrent la tête. Donc, une fois dans la rue, les gens le voient venir de loin et lui cèdent la place. Nicodème porte plusieurs masques, comme tout le monde d'ailleurs, surtout dans notre monde moderne où il faut sauver les apparences. Prenez un homme d'affaires qui va au bureau le matin. Bien vêtu, rasé de frais, il impressionne. Ses employés l'appellent « monsieur » et se montrent très respectueux envers lui. Ils ont intérêt, s'ils veulent conserver leur emploi. Ils croient connaître leur patron, mais font erreur. Le soir, ce dernier quitte son bureau pour rencontrer quelques clients à qui il dit que tout va bien. Ensuite, il se rend à son club ou dans un bon petit restaurant où il rencontre d'autres hommes comme lui. Il n'est plus monsieur machin-chose, mais Georges. Il discute affaires, et une fois encore, elle marche à fond la caisse. Enfin, il rentre chez lui harassé par une journée chargée. Dès qu'il a franchi le pas de sa porte, il enlève son pardessus et s'avachit au fond d'un fauteuil. C'est un tout autre homme, car les masques tombent. Il n'est plus dans les affaires qui y flambent, mais il apparaît découragé, anxieux, stressé par tous les soucis. Une fois n'est pas coutume, Nicodème est sincère et vient voir Jésus sans ses masques de carnaval. Il veut jouer franc jeu avec lui. Le Nouveau Testament n'a que des éloges pour Nicodème, car après la mort du Christ, par ses actions, il se déclare ouvertement pour lui. Inconnu par l'histoire des hommes, Nicodème est connu de Dieu. Je continue le texte. Il va trouver Jésus de nuit et le salue en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème ne réalise pas à quel point il est dans le vrai quand il dit « Nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé. » Pour lui, cette expression est une façon d'honorer le Seigneur et de le reconnaître comme un prophète. Jean ne nous dit pas pourquoi cet homme est venu trouver Jésus après le coucher du soleil. Mais dans l'Évangile, la nuit a souvent un aspect sinistre. D'un autre côté, les maîtres juifs de l'époque aimaient bien le travail et les discussions nocturnes. On peut aussi supposer que Nicodème ne souhaite pas être vu en compagnie d'un enseignant controversé, car cela risquerait fort de compromettre sa réputation en déchirant son masque de haut personnage respectable. En tout cas, il est très respectueux envers Jésus. Il n'est pas hypocrite, mais témoigne de la mauvaise compréhension qu'il a de lui. En effet, il ne doute pas un instant que les miracles de Jésus soient d'origine divine, mais il ne voit pas en lui le Messie ou le Fils de Dieu, seulement un homme pieux qui jouit de la bénédiction de l'Éternel. Or, les pharisiens voulaient se débarrasser du joug romain et rétablir le royaume de David, mais ils ne le pouvaient pas. Et voilà qu'apparaît, sur scène, un homme populaire, un faiseur de miracles béni de Dieu. Nicodème pense-t-il que les pharisiens devraient attacher leur petit wagon à son étoile et qu'en unissant leurs forces, ils pourraient chasser les Romains. Lui, Nicodème, a toutes ses entrées à Jérusalem. Il a le statut et porte la carte du parti. Jésus a la puissance, le royaume, c'est pour demain. On ne sait pas. Mais, quoi qu'il en soit, Nicodème vient voir Jésus pour lui parler de rabbin à rabbin. Je continue. Jésus lui répondit, « À moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème dévisse. Il n'en demandait pas tant. Il est venu avec l'intention de comprendre qui est ce faiseur de miracles et peut-être de l'enrôler pour virer les Romains et rétablir le royaume de David. Et voilà que Jésus parle de toute autre chose. Notre ami pharisien est religieux jusqu'au bout des ongles. Et pourtant le Seigneur affirme sans équivoque et de manière solennelle, avec la formule « vraiment, je te l'assure », qu'il ne verra pas le royaume de Dieu à moins qu'il ne naisse d'en haut. Alors que Nicodème attend un royaume politique national, Jésus lui parle d'un royaume invisible et spirituel. La nouvelle naissance est la transformation morale qui permet de passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. En affirmant la nécessité de cette naissance d'en haut, Jésus détruit cet édifice de vertu, d'œuvre et d'observance de la loi, grâce auquel le propre juste croit pouvoir se tenir debout devant Dieu. Il ne s'agit pas de faire, mais d'être, et avant d'être, il faut naître. Je continue. Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Nicodème est dérouté, en état de choc et triste, car il pense à lui-même, et il est vieux, et se sent donc disqualifié. Apparemment, il n'a pas entendu que Jésus a parlé de la naissance d'en haut. Alors il essaye de comprendre en faisant intervenir la venue au monde physique, alors que le Seigneur parlait de tout autre chose, de la régénération opérée par le Saint-Esprit. Je continue. « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Encore cette formule solennelle. Vraiment, je te l'assure. Jésus mentionne ici comment un homme peut naître d'en haut ou de nouveau. La signification de cette eau dont parle Jésus a fait couler beaucoup d'encre. L'eau était utilisée dans toutes les purifications rituelles juives. C'est le signe de la repentance qui purifie la conscience des œuvres mortes. À cette repentance, qui est le mouvement de l'homme vers Dieu, Dieu répond par la naissance d'en haut, œuvre de l'Esprit. Le principe éternel est tout-puissant qui crée la vie et régénère l'homme pécheur. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel prédit cette naissance d'en haut et met bout à bout l'eau et l'Esprit. Je lis le passage. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur tendre. » L'eau représente l'action purificatrice de la parole de Dieu qui convainc le pécheur de ses fautes et l'amène à un retour sur lui-même. C'était là tout le ministère de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, qui avait ébranlé la nation juive par son appel au peuple à se repentir. Ceux qui acceptent son baptême reconnaissent leur besoin d'être purifiés de leurs péchés. Que ce soit l'exhortation d'un prophète de l'Éternel, ou bien les Écritures, la parole de Dieu a une action purificatrice. Un peu plus loin dans l'Évangile, Jésus dira à ses disciples, « Déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Des textes, les lectures des textes sacrés engendrent la repentance parce qu'ils sont comme un miroir dans lequel chacun, s'il est sincère, peut se voir tel qu'il est devant Dieu. Sa parole me sonde et révèle ce qu'il y a au plus profond de mon être. L'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrante jusqu'à plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, elle juge des dispositions et les pensées du cœur. C'est en voyant mes fautes que me révèlent les Écritures, que je comprends mon besoin d'être sauvé. Or, Jésus est le seul sauveur. » Devant le grand prêtre, l'apôtre Pierre a dit, « C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Quand sous l'action du Saint-Esprit, quelqu'un se tourne vers Jésus, il se produit un déclic dans son âme, et il naît d'en haut. Ce discours de Jésus à Nicodème est loin, très loin, de toute pratique religieuse, quelle qu'elle soit. Le livre des Actes des Apôtres raconte trois conversions importantes. Un eunuque éthiopien, un officier romain et Saul de Tarse, qui est l'apôtre Paul. Ces hommes sont des repentants des trois familles de Noé qui échappèrent au déluge. Sem est l'ancêtre de Paul, Cham, celui de l'eunuque, et Japhet du Romain. Dans chacun de ces cas, c'est la parole de Dieu qui est l'instrument que le Saint-Esprit utilise pour ramener ces hommes à se tourner vers le Christ. Je continue le texte. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. La vie humaine naturelle est faite de faiblesse, de souffrance et de la mort qui sont les conséquences du péché. Or, on ne passe pas comme ça tout seul de l'état naturel à la vie de l'esprit, de l'existence terrestre au royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait une intervention surnaturelle, une nouvelle naissance, même pour quelqu'un comme Nicodème qui est juif. Dieu n'a pas l'intention de changer la vieille nature que je possède. D'ailleurs, elle ne peut l'être parce qu'elle est structurellement et fondamentalement corrompue. L'apôtre Paul souligne bien la déchéance humaine quand il écrit « En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. » On constate ici deux principes opposés. L'homme charnel est la loi de Dieu. La vie naturelle humaine ne peut pas être réparée, améliorée ou réformée. Pourtant, c'est exactement ce que la religion tente de faire. Mais le verdict divin est implacable, et donc toutes les tendances naturelles dont nous avons hérité doivent aller à la tombe. Par la naissance d'en haut, je reçois une nouvelle nature. Mais malheureusement, l'ancienne demeure avec moi jusqu'à la mort. Je continue le texte. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Jésus enfonce le clou devant Nicodème, ébahi. Il vous faut renaître d'en haut. Voilà bien la nécessité absolue et universelle. Jésus ne dit pas qu'il faut aller à un lieu de culte ou même faire de ses prières. Par contre, la nouvelle naissance est incontournable. Et sans naître d'en haut, je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Jésus compare l'action du vent et l'œuvre de l'esprit parce qu'elles sont toutes deux invisibles et ne se révèlent que par leurs effets. L'homme ne peut contrôler ni l'une ni l'autre. Nous pouvons certes constater que les feuilles bougent ou que les branches se courbent dans une direction, mais il est impossible à quiconque de commander au vent de souffler dans une certaine direction. Je continue le texte. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Pauvre Nicodème, il ne s'attendait pas à une soirée aussi stressante. Il veut vraiment savoir et s'instruire. Jésus lui reproche son ignorance et lui dit exactement, « Tu es le docteur d'Israël et tu ignores ces choses. Aïe ! Bonjour les sueurs froides. Qu'est-ce qui doit se sentir mal dans ces petits souliers, Nicodème ? En effet, il devrait savoir, car les prophètes ont parlé de la régénération spirituelle due à l'œuvre du Saint-Esprit. Apparemment, ce brave Nicodème, que je trouve bien sympathique, est l'un des principaux enseignements de la loi. Malgré tout, le Seigneur condescend à lui donner les lumières qu'il recherche. Je continue. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourriez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Jésus s'associe au témoignage des prophètes de l'Ancien Testament et fait un nouveau reproche à Nicodème, qui personnifie l'incrédulité et l'ignorance de la nation juive et surtout de ses dirigeants religieux. Les réalités terrestres sont celles qui ont déjà été révélées. La nouvelle naissance en fait partie et pourtant, le docteur d'Israël ignore son existence. Si l'homme ne croit pas quand on lui parle des choses terrestres, de sa nature, de sa conscience et de son besoin d'un renouvellement moral, il acceptera encore bien moins les choses célestes, c'est-à-dire la nécessité d'être sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu venu pour mourir et ressusciter, et qui reviendra pour régner sur cette terre. Ces réalités célestes seront confinées dans le Nouveau Testament, mais au moment de cette entrevue, ces enseignements n'ont pas encore été rédigés. Nicodème doit commencer à se dire que l'ordre de Dieu est beaucoup plus avancé qu'il ne croyait. Alors qu'avec ses collègues du Conseil juif, il attend que sonne l'heure solennelle de l'avènement du royaume. Le roi est déjà présent à leur insu. Et d'autres, les disciples de Jésus, y participent avant eux. Nicodème a sans aucun doute écouté, bouche bée, tout ce que Jésus lui a dit. À partir d'ici, il disparaît de la scène, mais pas dans l'oubliette de l'histoire, car il réapparaîtra un peu plus loin dans l'Évangile pour défendre le Christ contre ses collègues du Grand Conseil. Puis après la mort de Jésus, il se mouille carrément en prenant publiquement parti pour lui en participant en plein jour avec Joseph d'Arimathée, un autre membre du Conseil juif, à l'ensevelissement du corps du Christ dans un tombeau. Cette action lui a très certainement coûté sa place au Grand Conseil. Je continue le texte. « Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Personne n'a jamais vu Dieu et le connaît dans son essence. Pareillement, nul ne connaît les réalités célestes hormis Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Lui seul peut parler des choses célestes que nous devons croire, car non seulement il est venu du ciel, mais par sa communion intime et indissoluble avec Dieu, il est dans le ciel. Jean a déjà dit que Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. C'est lui, l'échelle entre le ciel et la terre. Il a accès aux deux mondes. Il est descendu lors de l'incarnation et remonté lors de l'ascension. Il est tout à fait exact qu'au moment de cette entrevue avec Nicodème, aucun être humain n'avait encore pu paraître devant la face de son Créateur, car lorsque les croyants mouraient, ils étaient emmenés par des anges dans la partie du séjour des morts qui s'appelle le sein d'Abraham ou le paradis. Mais ce lieu de félicité était hors de la présence de Dieu. Cependant, tout a radicalement changé suite au moment où Jésus a rendu l'esprit. En effet, au catéchisme, on apprend que suite à sa mort sur la croix, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Il y est allé, d'une part, pour confirmer la condamnation de ceux qui sont en attente du jugement, et d'autre part, pour ouvrir la porte du paradis et emmener avec lui tous les bienheureux dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un qui a une foi personnelle en Jésus mort, il entre directement dans le royaume des cieux, dans la joie de son maître, et rejoint tous ceux qui s'y trouvent déjà.
Tant de haine, tant de peine, de rancune et d'amertume pour cultiver la colère. Mais où est donc passé cet amour passé? Pourquoi ne pas oublier, tout recommencer, réapprendre à construire, à se découvrir, car sans l'amour nous ne sommes plus rien. Il y a tant de douleurs, de malheurs dans ce monde pour se voir se faire la guerre. Réapprendre à construire, à se découvrir, car sans l'amour nous sommes, nous ne sommes pour rien. Rappelle-toi, rappelle-toi du sacrifice de Golgotha. Rappelle-toi, rappelle-toi, il n'a pas ouvert la bouche, a tout accepté, a tout accepté. Rappelle-toi, rappelle-toi du sacrifice de Golgotha. Rappelle-toi, rappelle-toi, il n'a pas ouvert la bouche, c'était pas.
Il est bientôt temps de nous quitter, mais nous vous rappelons que vous pouvez obtenir gratuitement une copie de ce texte ou une Bible gratuite au 09 50 31 62 62.
Vous pouvez aussi vous connecter sur notre site chemindevie.info. Au revoir et à demain.